Bonjour. Le podcast des petits papiers, ce sont des mots inscrits sur des papiers et une invitée pour les commenter. Elle s'appelle Mickey, l'invitée des petits papiers aujourd'hui. Et avant toute chose, je vous raconte pourquoi j'ai eu envie de lui proposer d'être là aujourd'hui. Les premières images que j'ai vues d'elle, c'était sur Instagram. C'était une vidéo extraite de l'émission C'est à vous. Elle chantait assise sur une chaise à roulettes avec une aisance proche de la désinvolture sous les yeux de l'équipe des invités aussi. Il y avait sur le plateau Jonathan Cohen et Leïla Bekti ce jour-là. Et elle chantait des mots en parfaite contradiction avec cette aisance. Des mots qui assumaient des faiblesses, des fêlures, des doutes, un manque de confiance. Ça a duré moins de 3 minutes, mais ça m'a tellement scotché que ça m'a donné aussi fort envie de savoir qui était cette jeune femme. Bonjour Mickey.
Bonjour.
Pour les gens de ma génération, hein, qui ne sont pas forcément sur TikTok et sur Instagram beaucoup, cette vidéo de C'est à vous, ça a été une découverte de votre univers. Vous vous en souvenez de ce moment-là? Parce que je dis que vous étiez parfaitement à l'aise, presque désinvolte, mais est-ce que c'était le cas à l'intérieur?
Ouais, je pense que c'était le cas. Je pense que les concerts et les moments de télé... Je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu trop de stress. Mais parce que je pense que j'y pense pas vraiment. Et j'arrive et je chante ma chanson, en fait.
C'est comme si vous étiez un peu détaché de votre... de vous, ou je sais pas...
Je pense qu'il y a un truc où les mots que je dis dans mes sons, ils sont tellement personnels et j'ai pas besoin... Enfin, je les dis vraiment comment je les ai écrits. Et comment je les ai écrits, c'est comment je me suis vraiment sentie à ce moment-là. Donc je vois pas pourquoi il y aurait de différence dans la manière de les incarner sur scène ou sur des plateaux.
Ouais, mais on peut avoir le trac aussi, un peu.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais j'ai rarement le trac. Je suis assez contente de ça.
Alors, cette chanson que vous chantiez, c'était Échec et Maths. C'est la première chanson que vous avez postée sur les réseaux sociaux. Il y a eu ensuite un EP 7 titres qui s'appelait Graou. Et puis, voici un album Industry Plant, qui est un terme qu'on utilise pour parler d'artistes qui sont des artistes qui débarquent de nulle part, mais qui sont en fait fabriqués par l'industrie, marchandisés, et qu'on propulse à gros coups de marketing. C'est ce qu'on a dit de vous au moment de la sortie, enfin une partie des gens sur les réseaux sociaux ont dit de vous au moment de la sortie d'Échec et Maths.
Exactement. Exactement. C'est un terme que même moi je connaissais pas, j'avoue.
Je l'ai découvert avec vous aussi. Hein.
Ouais. Mais je pense que la France l'a découverte un peu aussi à ce moment-là. Je pense que c'était un terme qui était assez américain en vrai. Il avait été utilisé déjà auparavant, mais c'était une découverte pour pas mal de monde, ce terme-là.
On l'a utilisé pour des gens comme Billie Eilish par exemple, hein, je pense.
Ouais, c'est ça. Ouais. Billie Eilish, Clairo. Et surtout Adochi aussi, beaucoup d'artistes féminines, bizarrement.
Alors on ne va pas revenir, on ne va pas s'étendre sur cet épisode où on vous a démonté sur les réseaux sociaux. Mais par contre, c'était une envie vraiment de faire un pied de nez en donnant ce titre à votre album.
Oui, en fait, je trouve ça drôle, ça m'a fait rire.
Alors on va parler de vous, on va parler de votre parcours, on va parler de votre travail, on va parler des raisons pour lesquelles vous faites de la musique à travers des papiers, c'est le principe de cette émission, à travers des mots plutôt, qui sont inscrits sur des papiers. Les papiers sont devant vous, sur la table, et vous pouvez en piocher un et nous dire ce que ça évoque.
Fabrication. Fabrication. C'est un beau mot, j'aime beaucoup ce mot. Fabriquer. Ça me fait penser à deux choses. Bon, la première idée qui me vient en tête, c'est le truc le plus premier degré, c'est la fabrication d'un album, la fabrication d'une direction artistique, d'une mélodie, d'une présentation, la manière dont on a envie de se présenter, ce qu'on a envie de dire, et tout ça mis en musique, enregistré, mixé, masterisé. Mais avant ça, surtout penser de réfléchir à ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de faire passer comme message.
Mais ça, c'est quelque chose que la fabrication en elle-même, c'est quelque chose que vous avez forcément découvert avec l'EP et puis après avec l'album, puisque jusque-là, je pense que les chansons, vous les faisiez chez vous, de votre côté, peut-être avec quelques collaborateurs, mais il n'y avait encore rien de professionnel, entre guillemets. Et donc, c'est une découverte aussi, ça donne un univers que vous ne connaissiez que de loin.
Ah ouais, c'est quelque chose d'assez spécial, quoi, la collaboration, surtout quand... En fait, quand on a l'habitude de faire les choses par instinct et qu'on n'a pas vraiment de règles ou de normes de à quoi la musique elle devrait ressembler, de travailler avec des producteurs qui ont beaucoup d'expérience et surtout de voir les différentes manières de travailler sur un même logiciel, c'est hyper hyper enrichissant et en même temps ça peut aussi dans un certain sens braquer. Parce qu'on se remet beaucoup en question et parfois on peut avoir tendance à justement aller à l'inverse de nos idées parce qu'on se dit ok en fait c'est comme ça que c'est censé être fait, c'est comme ça que c'est censé être fabriqué pour pouvoir être commercialisé.
Oui, il faut tenir. Vous avez dû tenir certaines choses que vous ne vouliez pas lâcher pour rester proche de ce que vous êtes.
Oui, ouais, tout à fait. Mais je pense que dans les deux côtés, en fait, on a... Ah, c'est marrant, j'avais exactement le même lampadaire chez moi quand j'étais petite.
Ah tiens.
Et au contraire, aussi, savoir faire des concessions sur des points de vue qui allaient à l'inverse de moi ce que j'aurais pu faire, mais qui en fait finalement sublimaient encore plus la musique que ce que je pensais. Et donc tout ça, c'est une question de toujours rester ouvert, se remettre en question, mais suivre ses instincts, c'est un équilibre. En fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de solution. Donc ça, c'était un truc qui était assez... c'était la chose la plus difficile, je pense, pour moi. C'était de... le côté... quelles sont les décisions à prendre en fonction de ce qu'on dit autour de moi, de ce que mon instinct me dit, mais en même temps de comment est-ce que j'ai envie d'évoluer et d'apprendre aussi des autres qui sont autour de moi.
Oui, c'est conserver son intégrité.
Oui, ouais. Exactement.
Vous dites qu'il faut rester ouverte. Oui, forcément, quand on vous propose des choses, il faut être ouverte. C'est quelque chose qui est peut-être compliqué. Est-ce que vous avez de la facilité à lâcher prise justement sur ce que vous faites et puis à pouvoir déléguer, à pouvoir...
C'est pas facile. Bah, je suis quand même obligée de le faire, parce que sinon je m'en sortirais pas. Mais c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre en ce moment. Parce que j'ai du mal à me considérer comme à 100% légitime d'un son, d'une musique ou d'un clip à partir du moment où je l'ai pas fait à 100% moi-même. Donc du coup... En fait, tout ce que j'ai fait là jusqu'à maintenant, c'était de la collaboration. Du coup, j'ai du mal à m'approprier à 100% des choses que j'ai pas fait à 100%. Et en fait, savoir justement être conscient du travail qu'on apporte et de se dire en fait, rien que ça, en fait, sans ça, le son il n'existerait pas. Et de prendre ce recul-là et d'être voilà conscient de que la musique c'est un travail qui est collaboratif et ça fait pas de moi, quelqu'un qui est moins légitime d'en parler, ben, c'est un travail à avoir. En fait, il faut que je m'enlève ou me détache de la vision noir ou blanc de l'art.
Mais qui, je pense que... Là, on parlait de fabrication. Je pense que vous avez dit c'est un mot qui me plaît, c'est un mot que j'aime bien. Mais je pense que vous avez effectivement un intérêt pour tout ce qui se fabrique et d'aller voir ce qui se passe derrière. Vous dites que pour les films, par exemple, vous adorez voir les making-of, que vous aimez bien lire les scénarios avant de regarder les films, ce qui est quand même assez curieux.
Ouais, bah je trouve ça incroyable. En fait, moi j'aime bien juste l'effet que ça fait quand quelqu'un te raconte un film et il te raconte en 20 secondes, enfin même pas, ouais, en 20 secondes un travail qui a dû prendre 2 ans à faire et qu'en fait on peut le regarder et c'est fait et il est là. Enfin, je sais pas, il y a un truc que je trouve complètement dingue dans le fait qu'on peut faire tenir 2 ans de travail ou plus, 10 ans de travail en 2 phrases. Et de voir tout le travail qui a été fait derrière. Il y a un documentaire incroyable, par exemple, de Blade Runner qui dure 3 heures et qui est limite plus fascinant que le film en lui-même. Et c'est de voir tout ce qui a été caché. Il y avait des problèmes budgétaires, enfin, comme la plupart des tournages. Et donc, pour ça, c'est pour ça que la plupart des plans étaient tournés la nuit et qu'il y avait beaucoup de fumée. C'est juste pour cacher le manque de décor qu'ils avaient. Et c'est toutes ces petites contraintes et de voir les solutions qui ont été apportées aux contraintes. Moi, je trouve ça tellement inspirant. Et ça apporte souvent des solutions. C'est David Lynch qui disait ça, c'est que les contraintes apportent la créativité. Et en fait, moi, c'est un truc qui me parle beaucoup, que ce soit sur scène ou en studio. J'adore.
Est-ce que vous avez noté des choses ou est-ce que vous avez pris des images de la fabrication de votre album ?
Oui, ouais. Ouais, y en a pas mal, du coup, dans la clé USB qui est dans le package si on commande l'album. Mais oui, donc il y a beaucoup de plans qui ont été faits du coup à La Prade, qui est un château à Bordeaux, où je me suis retrouvée avec Calm Blaster et Lucas V, et pendant 10 jours, bah, c'est là que sont nés la plupart des morceaux, hein, Affection, Roger Rabbit, Yes, il y a pas mal de morceaux qui ont été faits aussi avec Tristan, donc ça c'était dans son studio à Paris, donc Tristan j'avais déjà l'habitude de travailler avec
lui. Il a travaillé avec Angèle, hein, pour situer un peu. Ouais.
Exactement. Et oui, donc on travaille, oui, je travaille dans son studio à Paris. Et nous, on a pris quand même pas mal de temps à apprendre à s'apprivoiser pour savoir en fait quelle était notre chimie et alchimie en studio. Donc les morceaux qui ont été faits avec lui sont faits très, très facilement. Et ensuite, le reste de l'album a été fait dans le studio de Lucas aussi à Paris.
Vous parliez des films qu'on peut résumer en 20 secondes. Votre album, certaines critiques, ou en tout cas, ont peut-être résumé en un paragraphe. Ça vous a fait quoi de voir autant de travail résumé en quelques lignes ?
En vrai, j'ai eu des retours positifs, donc je m'en rends, en fait, je m'en rends compte de pas grand-chose en fait depuis un an, j'avoue. Pour être tout à fait honnête, tout ça, ça passe devant moi. En fait, ça me donne le même effet que quand je vais sur scène ou sur un plateau télé, comme on a parlé tout à l'heure. J'ai une espèce de détachement par rapport à tout ce qui m'arrive. En fait, puisque j'ai dû me détacher du négatif, je me détache aussi du positif, ce qui fait que je m'en rends pas tout à fait compte, mais je suis contente. Peut-être que dans 2 ans, je m'en rendrai compte. Opposé. C'est intéressant comme choix de mots. Opposé. Alors, opposé, c'est un mot qui me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place quant aux thématiques de mes chansons. J'aime beaucoup opposer deux types d'émotions, que ce soit la nonchalance avec la colère, l'innocence et le malsain. Et opposer aussi des styles musicaux pour en faire de la pop, des cultures, la France, la Corée et tout le reste des références que j'ai pu écouter dans ma vie. Je pense que la nouveauté, elle vient forcément de l'alliance entre deux opposés, deux ou plusieurs opposés. Donc c'est très important pour moi.
Il y a effectivement déjà une opposition dans votre attitude et dans les mots que vous chantez. C'est la première des oppositions, la première qu'on voit en tout cas.
Oui, tout à fait. C'est un truc que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup touchée en fait dans les lectures que je faisais en grandissant, que ce soit dans Le Petit Nicolas ou dans du Dépente ou du Camus ou dans les bandes dessinées que je lisais. C'est vraiment cette espèce d'opposition entre le sujet dont on parle et la manière dont elle s'est racontée. Et il y a un truc que je retrouve aussi beaucoup dans le cinéma coréen, dans la littérature coréenne aussi, c'est de dédramatiser le dramatique. Je trouve ça fascinant. Et pareil, dans des films comme Une Fantastique Mr. Fox ou Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, pour moi, ça crée du coup une espèce d'ironie, de cynisme, dans laquelle je me sens confortable et qui me... J'aime pas, j'aime bien aussi les gens qui sont cyniques. J'aime bien les gens qui jouent de ça parce que c'est pas des gens qui acceptent non plus cette réalité et ils en font pas leur identité.
Ouais, mais c'est une manière de se protéger aussi, parfois, le cynisme ou en tout cas le détachement, l'humour.
Complètement. Complètement.
Donc c'est une manière de vous mettre à distance de ce que vous avez envie de raconter aussi.
Oui, mais en même temps, je le raconte. Donc je me mets quand même beaucoup à nu. Mais je le laisse pas trop. M'atteindre et surtout j'ai pas envie de faire des leçons de morale quoi, j'ai pas envie de dire ok c'est passé ça, vous devez vous sentir comme si, et sortir les violons comme dans les films américains, je préfère parler et de le raconter de la manière dont je raconterais à une amie ou quelqu'un avec qui j'ai envie de passer un bon moment.
Ouais, je le précise parce que vous avez évoqué 2 fois la Corée, la culture coréenne. Votre maman est coréenne, vous êtes franco-coréenne, je le dis parce que c'est vrai, on l'a pas dit au début, c'est important de le dire quand vous en parlez. Je reviens justement peut-être à vos débuts, là aussi, c'est pas forcément une opposition, mais vous avez eu une formation classique au piano, vous avez fait des années de conservatoire, votre maman était apparemment assez fan de chants lyriques, donc on est loin de votre univers d'aujourd'hui et pourtant. La musique, c'est de la musique, donc il y a toujours quelque chose de commun. Qu'est-ce que vous gardez de cette éducation très classique?
Une certaine dextérité de main au piano.
Ouais.
Non, je pense que franchement, ça permet d'avoir une conscience de production quand même, de savoir jouer au piano classique, parce qu'en fait, on retrouve les mêmes éléments. La main gauche, elle joue souvent pas la basse, elle agit comme une espèce de pompe, alors qu'à la droite, on a les mélodies. Je trouve que le classique, il aussi se rejoint beaucoup avec la musique électronique. Je trouve que la techno et la musique classique, ça se consomme de la même manière. C'est une centaine de personnes dans une salle qui regardent droit devant eux, qui dansent pas les uns avec les autres, qui sont silencieux et qui dansent de manière cathartique à une musique qui est assez répétitive. Et là-dedans, je trouve que la musique classique, elle m'a énormément suivi jusqu'à aujourd'hui. J'en écoute encore énormément. Et même dans la manière dont c'est construit, les accords, ça raconte une histoire. Et pour moi, les chansons, c'est censé raconter une histoire. Et la musique classique, même sans les mots, c'est comme un film pour moi. Ça fera toujours partie de moi.
Il y a une forme de discipline et de travail régulier nécessaire quand on fait le conservatoire, quand on fait du classique. Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui très travailleuse? Est-ce que vous passez des heures et des heures à travailler votre musique, à chercher à...
Oui, même des années. Mais j'étais pas l'élève la plus assidue au classique parce qu'en fait, je me sentais braquée quand on me disait de pas jouer d'une certaine manière. Et j'aimais bien rajouter des notes aussi quand je voyais sur la partition des notes qui me plaisaient. Et en fait, le fait que je puisse pas faire exactement ce que je veux, ça me braquait un peu. Et en fait, aujourd'hui, de pouvoir, je peux passer des heures à faire quelque chose, mais qui me plaît, quoi. Et de trouver vraiment la mélodie parfaite. Je peux retravailler exactement la même ligne pendant des heures pour que ça me plaise. Je peux fermer l'ordinateur, le réouvrir le lendemain et me dire que c'est nul et vraiment et tout effacé. Mais en tout cas, je me donne la chance à des œufs d'éclore tous les jours.
Ça existe la mélodie parfaite, Mickey?
Bah ouais, je crois quand ouais. même. Il y en a plein, hein. Je dis pas qu'il y en a qu'une seule, mais oui, je pense qu'il y a des mélodies qui sont faites pour nous électrifier et auxquelles on est complètement esclaves, quoi. Pour moi, c'est ça, le coup de foudre, les vrais coups de foudre, pour moi, c'est les coups de foudre artistiques où on ne peut pas s'empêcher, on n'a pas le choix, en fait, que d'aimer un morceau qu'on entend. On est esclaves de la mélodie parfaite qui nous fend.
Merci d'écouter ce podcast et si vous l'appréciez, n'hésitez pas à le suivre. On vous propose des rencontres de ce type très régulièrement. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a besoin de vous pour le faire connaître. Ces rencontres Petit Papier ne sont pas filmées. C'est un choix pour privilégier la parole et les mots. Mais forcément, ça limite aussi la visibilité. Et donc, pour que nous puissions être découverts, suivis par plus de monde, on a besoin de vos étoiles, de vos commentaires, de vos partages. Donc, n'hésitez pas à faire connaître le podcast des Petits Papiers à ceux que vous aimez.
Familiarité. Alors, la familiarité, c'est quelque chose qui me parle aussi, que ce soit visuellement ou dans les mots. C'est quelque chose que j'ai travaillé pour déconstruire. J'ai fait une école de cinéma pendant 3 ans, donc j'ai appris les bases, comment faire pour faire une belle image. On a tous fait des études de français, on a étudié la littérature, enfin tous. Certains d'entre nous, au lycée, ça fait partie quand même de notre...
Les bases en tout cas.
Ouais, des bases. Et en fait, je me suis rendu compte que la musique qui me parlait à moi, en fait la musique que je faisais moi qui me touchait le plus, c'était celle où j'étais le plus naturelle, où j'essayais pas justement de trouver des tournures de phrases ou avoir une certaine... Il faut quand même avoir une certaine dextérité de langage, mais sans en faire trop, en fait, de se suffire. De savoir que de moins en faire, en fait, c'est plus, et visuellement, pareil. Et ça, c'est la familiarité, c'est de se retrouver dans un endroit où, en fait, je suis en face de quelqu'un que je connais pas, et la personne va quand même se sentir chez elle avec moi, alors qu'on n'a pas pris le temps de se connaître. Et je pense que ce truc-là, c'est un truc qui se travaille.
Ça veut dire que vous chantez, vous écrivez ce que vous chantez comme vous parlez?
J'essaye,
ouais.
Ouais, au maximum. Et parfois, quand je parle, ça peut être complètement pas naturel pour certaines personnes, mais pour moi, c'est naturel pour moi. Tout est relatif. En tout cas, moi, je respecte beaucoup les artistes qui sont capables d'exprimer leurs idées le plus simplement possible. En fait, d'être le plus simple possible, c'est ça la plus grande forme de génie, en fait. Regarde des films de Renoir, par exemple. C'est simple, mais c'est tellement complexe. Et en fait, d'être simple, c'est de comprendre de quoi on parle. Et c'est assez rare, en fait, de savoir vraiment de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est pour ça que souvent, on peut trouver des entourloupes, des détours, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on a envie de dire. Et ce qui est le plus dur, c'est d'être sincère avec soi-même et de ne pas se mentir à soi-même et de se faire comprendre.
Ça veut dire que vous chassez les entourloupes, les pièges peut-être, que vous tentez un maximum de les éviter dans votre travail?
J'essaye, mais c'est très dur.
Ouais.
C'est très dur d'écrire. Le matin, t'écris, tu dis exactement exactement ce que tu penses. C'est hyper dur.
Ouais, faudrait essayer, c'est vrai. Essayez chez vous.
Ouais.
Si vous nous écoutez, d'écrire exactement ce que vous pensez. Ben, c'est peut-être pas tellement de l'écrire qui est difficile, mais c'est de pouvoir le partager après aussi.
Ah ouais, bah, je pense que ça, j'avoue, cette phase-là, elle est un petit peu... J'y pense pas, je suis très détachée aussi. En fait, je suis toujours convaincue que personne n'écoute. Donc,
Là, il y a du monde quand même. Hein.
Bah ouais, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, ce sera toujours... J'ai toujours dit, bon, bah, qui écoute vraiment le... Il y a personne... Mais je pense que c'est un truc aussi comme le fait de pas répondre à des messages. Parce qu'en fait, je me dis tout le temps, bah, de toute façon, la personne, elle va même pas remarquer que j'ai pas répondu parce qu'elle s'en fiche. Et un peu cette espèce de truc de base où je me dis, comme le syndrome de l'enfant du milieu, qui est un peu transparent.
Vous êtes au milieu, vous, chez vous ?
Non, je suis la dernière. Mais je pense que j'ai la formation de ma famille, elle est un petit peu... Elle est différente des autres. Parce que j'ai ma grande sœur, elle est mentalement handicapée. J'ai un grand frère qui est très, très introverti. Et donc, du coup, mon rôle, j'étais quand même la petite sœur. Donc voilà, la petite dernière, elle est quand même assez chouchoutée et tout. Mais en même temps, il fallait... prendre la place de la grande sœur par rapport à ma grande sœur et en même temps, comment dire, être au niveau de ce que mes parents auraient aimé que ma grande sœur elle soit si elle n'avait pas eu de problème à la naissance. Donc, je suis la dernière, mais en même temps, je suis celle du milieu et l'aînée aussi. Il y a un truc où j'ai souvent eu l'impression que quoi que je fasse, de toute manière, ça ne se remarquera pas tant que ça. Et...
Sauf si vous faites mal, peut-être. D'ailleurs, dans une des chansons, vous en parlez de ça. Hein. Je crois que c'est dans BNF où vous dites que... c'est dans BNF que vous parlez du fait que à chaque fois que vous faites quelque chose un peu qui ne plairait pas à votre mère, vous ne vous sentez pas bien, c'est dans BNF ?
BNF, elle dit « Appel de ma mère, merde ». Elle est en pleurs, dit qu'elle m'en veut pas, elle se contredit parfois, et d'écrire des chansons qui mettent en colère. Mais c'est quand tout devient sombre que j'y vois plus clair. Ah oui, non, après mon papa a dit mon père me parle du monde qui part en couille. Je me suis sentie conne avec mes petits sons de pacotier. Il y a des barres de vie dans mon casque VR. Plus elles se remplissent, plus ça m'exaspère. Je veux pas me respawn, je pense être remplaçable. Je partirai en catimini quand vous êtes à table.
Mais c'est quand même un fameux poids sur les épaules de devoir occuper cette place en tant qu'enfant, en tant que petite dernière, de devoir assumer tous les rôles.
Ouais. Mmh. J'ai jamais vraiment réfléchi. En fait, c'est la première fois que je me suis faite cette réflexion d'avoir plusieurs places en même temps dans la famille. Mais oui, c'est assez particulier. Après, voilà, la plupart des familles sont dysfonctionnelles, mais c'est pas parce qu'on est dysfonctionnel qu'il n'y a pas d'affection.
Exactement. Et d'ailleurs, là aussi, vous en parlez, vous dites c'est pas parce qu'on est dysfonctionnel qu'il n'y a pas d'affection, et vous dites il y a des mots qui ne se lisent qu'entre les lignes, et c'est mieux comme ça. C'est un peu pour ça que vous écrivez aussi ?
Peut-être. Ouais, exactement. En fait, pour moi, les mots qui existent entre les lignes, c'est du coup, au-delà des mots, la sensation que va nous donner une musique. Et ça va être ce que fait qu'on peut entendre une chanson d'une langue qu'on ne connaît pas et qu'elle va quand même nous toucher. Ça, pour moi, c'est les mots entre les lignes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans un son comme Roger Rabbit, par exemple.
Roger Rabbit, qui est une chanson qui évoque les monstres un peu pédophiles, ou en tout cas les adultes qui s'en prennent aux jeunes filles ou aux jeunes enfants. Hein.
Mmh, ouais. Exactement.
Vous avez parlé de familiarité et vous avez parlé de déconstruire les choses pour arriver à être familière. Dans vos visuels, dans vos clips aussi, il y a ce côté familier. C'est-à-dire que les clips de Mickey, on a l'impression qu'ils sont faits comme on pourrait faire une petite vidéo vite fait sur Instagram, ce qui n'est certainement pas le cas, et je pense que ce n'est pas le cas. Hein. Mais ça aussi, c'est important de pouvoir faire quelque chose qui soit immédiatement assimilable par tout le monde et dont on puisse se sentir proche.
Oui, complètement. Je pense que c'était aussi une manière pour moi de me chercher, en fait, visuellement. Et par manque de temps, en fait, je me suis dit, ok, je vais faire juste le plus de trucs possible. Et on va voir ce qui me touche à la fin, parce qu'en fait, on tombe souvent dans le piège de faire des gros clips, gros montages, et embaucher 15 personnes qui travaillent dessus. Et à la fin, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est très très loin de nous. Et c'est hyper précieux. Et en fait, ça, c'est la chose qui n'a pas de prix. C'est l'intime dans les visuels. Et c'est pas parce qu'en fait, on vit dans une époque où il y a du gros budget qui est mis dans l'audiovisuel et qu'en fait, c'est ça qui accroche. En fait, l'œil, il peut être accroché par autre chose que l'argent à l'écran. Et ça, on le voit très bien dans TikTok, des vidéos qui prennent des millions et des millions de vues, alors que c'est voilà, un mec qui réchauffe une casserole et qui se brûle dans sa cuisine, enfin, ou bien des gens qui prennent des vidéos de leur chat. L'humain est beaucoup plus humain qu'on ne le pense. Et je pense que les clips que j'ai faits ont été la preuve, quoi.
Ouais, par exemple, Cartoon Sex, vous êtes dans une voiture où vous filmez sur la route, hein, avec des gens avec vous dans la voiture, simplement. Et puis, on parlait des shake and mat, c'est un plan fixe, en fait, à l'arrière d'un Buffalo Grill. Et il y a souvent, d'ailleurs, dans vos clips, des zones un peu comme ça, des lieux, comme des zones commerciales ou des choses comme ça. Vous aimez bien ça ?
J'aime bien ça, j'aime beaucoup ça. En fait, un des premiers clips que j'avais fait, mais il y a beaucoup de clips que j'ai effacés depuis. C'était toujours, j'adore les décors un petit peu surréalistes. Et le premier clip que j'avais fait, c'était devant un Super U avec mes cousines. On avait fait une chorégraphie devant un Super U et il était, enfin bref, c'était trop bien ce clip. Et il y avait toujours encore ce truc de casser le quatrième mur où en fait c'est un clip, mais c'est pas vraiment un clip, où on voit les prises entre les prises.
Oui, parce que parfois vous interrompez, vous arrêtez de chanter, vous retournez, vous dites un truc à la personne derrière ou à côté.
C'est ça. Après, dans Échec et Mat, c'était vraiment pas fait exprès. Et on avait fait d'autres prises, et en fait, cette prise-là, c'était la mieux parce qu'il y avait un truc assez évident dans cette spontanéité, je veux dire. Mais oui, là, même là, quand je rentre au Luxembourg pour le week-end, j'adore prendre mon petit trépied, mon iPhone, et je me fous devant un mobile Elvis ou. J'ai fait un clip dans des fourrières pour chiens. J'aime bien les lieux un peu atypiques qui me foutent le cafard un peu.
Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est toujours des lieux qui sont à la limite du déprimant, mais que tout à coup vous recolorez autrement.
Ouais, exactement. Ouais, mais même moi, le clip de Scorpion aussi, j'avais fait ça devant des décors au Luxembourg. Il y a des centrales nucléaires, mais il y a aussi des terrains de foot que j'adore. Il y a des stades.
Ça, vous dites que les terrains de foot, les terrains de sport, ça vous émeut particulièrement. Vous jouez au foot, hein, d'ailleurs, je pense. Ouais. Mais que ça vous émeut très, très fort, ces endroits-là.
Ouais, les terrains de basket, les terrains de foot, de tennis, ping-pong.
Mais ça vous émeut même quand c'est vide ou,
Et surtout quand c'est abandonné.
Ah oui.
Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses comme ça. C'est comme les petites collines vertes qu'on voit dans les fonds d'écran Windows. Ça évoque en moi quelque chose de très très nostalgique, mais que j'ai jamais vécu, quoi. Donc ce sentiment là c'est quelque chose que j'ai envie de retranscrire aussi dans la musique, je pense, mais c'est très 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 particulier. Moi, c'est un sentiment auquel je peux être un petit peu addict et que j'ai ressenti énormément en grandissant, surtout en grandissant au Luxembourg, qui est un peu quand même une ville un peu cafardeuse.
Vous avez grandi au Luxembourg, ça non plus je l'ai pas dit dans la présentation.
Ouais, j'ai grandi au Luxembourg. Et...
qui n'est pas l'endroit le plus fun au niveau décor du monde. Hein,
non plus. Ouais. Donc ça permet de remplir les vides. Et donc c'est quand même là que j'ai fait la plupart de mon éducation musicale, que ce soit au conservatoire ou à travers les vinyles que je collectionnais et que j'écoutais hyper fort dans ma chambre pendant des heures. Je ne sortais pas beaucoup de ma chambre en vrai. Je regardais beaucoup de films et j'écoutais la musique. Et ouais, non, c'est un endroit où j'avais une fenêtre qui donnait sur des arbres et je passais beaucoup de temps à regarder par la fenêtre et à m'imaginer des scénarios que j'aimerais qui se passent. Donc voilà, ce vide-là, quand même, il permet de... Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est un sentiment un peu adolescent, mélancolique, d'une nostalgie d'un truc qu'on n'a jamais vécu, que je ressens aussi quand je regarde des films de Miyazaki ou des films d'animation, de mise en scène, ou quand je vous regarde ces petites collines vertes, il y a quelque chose d'assez spécial. Carnet. Alors carnet, j'en ai plein des carnets. J'en ai de toutes les couleurs, j'en ai qui sont... remplis, j'en ai qui sont vides, j'en ai qui sont remplis de mots, plein de mots.
Il paraît que depuis toute petite, vous vous forcez à noter une vérité par jour, c'est vrai ?
Ah, pas depuis, non, depuis que je suis toute petite, j'ai des journaux intimes.
Ouais.
Et la vérité par jour, ça fait depuis que je fais de la musique que je fais.
Ah ouais. C'est quoi une vérité ?
Ça va être le fait que... c'est plus un point de vue, en fait. Ça va être, je sais pas, vraiment une observation que je me dis, par exemple, là, il y a du bois dans ce studio et il est parfaitement accordé à votre pull rose. Et après, en fait, cette observation-là, elle va mener à quelque chose d'autre qui est plus émotionnel, dont je me suis pas rendu compte, en fait. Mais qu'en fait, l'émotion, elle est basée sur souvent juste de faits. Et que j'ai quand même l'impression qu'on est un peu dans les années 70. Et...
Au niveau du décor, le studio, c'est vrai qu'on y est. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça, avec les lumières au plafond qui me rappellent le lycée, le lampadaire qui me rappelle moi quand j'étais petite, et ça me rappelle du coup le son Hajima, où je dis genre, en fait, il y a un moment où tous ces objets-là, ils ont disparu de ma vie, tout a disparu, mais sans me prévenir. Il y a un moment où on voit plus la nappe de quand on est petit, on voit plus les couverts, on voit plus le vase qui était sur la table tous les jours, et sans nous prévenir, en fait, il y a un moment où c'était la dernière fois où on les a vus. Et voilà, bon, par exemple, là, je suis là et ça va m'évoquer ça, mais juste par une observation de vérité.
Ouais, et là, vous les revoyez, tout à coup, vous revoyez le lampadaire. C'est pas oui. Le même, mais c'est quand même le même. Et ça, vous l'avez repéré d'ailleurs directement tout à l'heure.
Ouais. Ouais.
Ça fait quoi quand on retrouve des objets parce que vous dites, est-ce qu'il y a une forme de nostalgie? On parlait de nostalgie tout à l'heure, mais par rapport aux objets, parce qu'une vieille nappe, elle peut ressortir du fond d'un placard tout à coup, on peut retomber dessus en faisant du tri.
Bah en fait, déjà, ça me fait penser au temps. C'est comme quand je pars pendant un mois et je rentre chez moi, mon appartement, et je dis « Et pendant tout ce temps-là, vous étiez là !» Et là, je parle à mon lit, à mon salon. Je dis « Pendant tout ce temps-là, j'ai vécu tout ça, je me suis cassé la cheville, je me suis engueulée avec ma sœur, je suis allée... Enfin bref, j'ai fait genre plein d'aventures, j'invente n'importe quoi. Mais j'arrive, je me dis « Vous étiez là et vous n'avez pas bougé. Qu'est-ce que vous avez fait ?» C'est comme dans Toy Story, quoi. Il y a un truc un peu... Ouais. Est-ce que vous étiez vraiment tout seul ou il s'est passé des trucs enfin...
Est-ce qu'il se passe des choses quand je ne suis pas là, en fait? C'est ça, finalement.
Ou bien, ouais. Je me dis, mais ça va, vous n'êtes pas fait chier pendant tout ce temps-là. Donc, si je retrouve une nappe qui était perdue depuis tout ce temps-là, je me dis, mais pendant tout ce temps, t'étais là et t'as pas bougé. Et je sais pas, ce décalage-là, il me fait rire.
Ça veut dire que vous êtes attaché aux objets que vous en avez beaucoup, que vous avez du mal à acheter les choses aussi.
Oui, non, je pense que pendant j'ai une période où j'ai fait un rejet de tout, de la mode, voilà, de l'achat de nouveaux vêtements, des cadeaux. Ça m'énervait quand les gens m'offraient des cadeaux, mais moi non plus, j'en offrais pas des cadeaux. Je trouvais ça inutile. Je trouvais ça comme une espèce de ouais, j'avais un espèce de cynisme entre les gestes habituels qu'on a d'aller acheter des trucs. Voilà, un peu en... C'était quand j'étais à l'université, mais du coup, en fait, j'avais une version assez manichéenne, quoi. J'avais pas trop de nuances. Du coup, je me prenais même moins soin de moi-même parce que je me suis dit, en fait, ça sert à quoi de prendre soin de soi? Ça sert à quoi de prendre une douche le matin? Ça sert à quoi de se faire belle? Ça sert à quoi? Ça veut dire quoi se faire belle? Et donc, j'avais une espèce de rejet de tout ça, donc, dont les objets. Et en fait, ça se traduisait finalement dans même une espèce d'économie de ma dépense, de comment je dépensais mon énergie ou mon argent, et en fait je me retrouvais à rien faire, parce que je me disais en fait tout sert à rien, rien ne sert à quelque chose. Donc là petit à petit, ces derniers temps, justement j'apprends à faire des choses sans réfléchir et pas trop donner du sens, et si il y a un truc qui me fait plaisir d'acheter une babiole de super nana à quelqu'un que je vais croiser une heure après et que sans que ça engage en quoi que ce soit, en fait, je me dis, en fait, si ça fait plaisir, ça montre que t'as pensé à cette personne-là. Et en fait, les objets, ça devient plutôt des gestes de... Il y a des mots... justement, les mots entre les lignes, quoi. Mm-hmm. On n'a pas besoin de parler pour dire ce qu'on ressent. Juste le fait qu'on a offert ça, ça veut dire qu'on a pensé à toi et c'est la matérialisation de cette pensée-là. Il n'y a pas vraiment de mensonge là-dedans, quoi, parce que c'est frais, il est là. Donc voilà, je recommence à retrouver une relation un peu normale avec les objets.
Ce que vous racontez du fait que, bah, voilà, par rapport quand vous rentrez dans votre appartement, que vous vous demandez ce qui s'est passé sans vous, ça me fait penser aussi qu'apparemment, vous avez commencé à vous raconter des histoires ou à raconter des histoires très très petites. Vous faisiez du théâtre petite avec votre frère, votre sœur d'ailleurs. Vous mettiez tout le monde en scène. Il y avait quelque chose déjà de l'envie de dire des choses autrement.
Ouais, Oui, mais j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup diriger. J'aime beaucoup créer des univers, en fait. En fait, de rien, le simple fait qu'on mette un tablier et qu'on écrive des dialogues, en fait, tout d'un coup, on y croit, même si c'est complètement bête. Tu vois des gens qui font les guignols sur trois planches de bois. Pourquoi est-ce qu'on y croit? Et il y a un truc un peu assez magique chez les humains. C'est comme chanter, en vrai, c'est complètement absurde. Des centaines de milliers de personnes qui regardent une personne chanter des mots, c'est absurde.
Ouais.
Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce que ça génère autant d'émotions? Il y a un truc complètement mystique, magique. Et je pense que ce truc-là, il s'est traduit beaucoup à travers le théâtre quand j'étais plus jeune. Et le fait d'inventer des histoires et créer des moments de spectacle aussi, quand il y avait des invités, de dire OK, maintenant, arrêtez tout, regardez-nous. Moi, je vais préparer une danse, ou je vais préparer une histoire de théâtre et des contes. J'ai toujours aimé les contes, les fables. Le fait qu'il y ait toujours une histoire un peu plus sombre cachée derrière quelque chose de plus naïf. C'est ce qu'on voit dans tous les
Ouais.
Disney, les contes, les vieux contes de Grimm. Je trouve ça, j'aime bien le fait qu'il y ait quelque chose de plus sombre qui est caché, quelque chose qui a été fait pour être raconté aux enfants. Et j'aime bien incarner des rôles aussi, c'est une manière aussi d'être autre chose que soi-même pendant un petit moment. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ressentent ce truc-là.
C'est pas pour rien, peut-être, Mickey, aussi, que vous avez fait des études de cinéma à la base, avant de revenir à la musique, même si d'ailleurs, pendant que vous faisiez vos études de cinéma, quand vous aviez besoin de musique, c'est vous qui la composiez pour les films pendant les études. Qu'est-ce que ça vous a donné, ces études de cinéma, et qu'est-ce que vous avez envie d'en faire aujourd'hui?
Les études de cinéma, ça m'a permis de quand même trouver une certaine patte, de savoir ce que j'aimais voir à l'écran, de savoir apprendre à monter. En fait, le montage, c'est incroyable. C'est complètement magique. C'est comme la production musicale, en fait. Pour moi, c'est deux logiciels qui se ressemblent beaucoup. On nous donne un matériel assez, voilà, de manière assez démocratique, au sein d'un logiciel, hein, je parle. Alors, tout le monde a les mêmes ressources, mais en fait, en fonction de ton cerveau et de la manière de réfléchir, tu vas faire quelque chose, tu vas créer une histoire complètement différente que ton voisin, avec exactement les mêmes rushs ou les mêmes instruments. Je trouve ça dingue. Ça m'a appris à gérer des équipes. Ça m'a appris aussi à comprendre plus la technique. Je me suis mis aussi à plein de pôles différents, que ce soit en tant que scénariste ou bien de travailler dans une boîte de scénarios, de travailler dans des boîtes de documentaires, de travailler dans des boîtes de location de cinéma, d'être réal, d'être actrice, d'être assistante réal aussi sur des gros tournages. Et ce truc-là, c'était hyper précieux. Et je pense que si j'y retourne plus tard, en fait, c'est grâce à la musique que je vais pouvoir savoir ce que c'est que de me sentir proche d'une vérité. Parce que c'est un truc que j'ai plutôt travaillé en faisant de la musique. Et du coup, voilà, si jamais je m'y remets plus tard, ça va être beaucoup plus simple.
Ça vous donne envie de vous y remettre plus tard au cinéma? Est-ce qu'un jour, vous pourriez avoir envie de réaliser un long métrage ou ouais,
Ouais, complètement.
c'est dans votre tête quelque part,
Ouais.
ouais, pour après.
Ouais.
Mickey, merci beaucoup d'être venu dans Les Petits Papiers. Je vais rappeler les dates de concert. Vous serez le 4 décembre au Réflecteur à Liège, le 6 décembre à la Ferme du Biérot à Louvain-la-Neuve, le 10 décembre au Botanique à Bruxelles. Et puis, bah, vous reviendrez bien vite. Hein. Je pense que vous connaissez Bruxelles. Hein. Vous avez pas mal fréquenter la
C'est là
ville
où j'ai
quand même.
commencé,
Et voilà.
musique.
Ouais. Merci Mickey.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été à l'écoute. Il y a une multitude d'artistes à découvrir dans les épisodes des Petits Papiers. N'hésitez pas à aller faire un tour et n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez au courant de tous ceux qui arriveront dans le futur. Et puis, vous pouvez laisser au passage quelques étoiles et commentaires. Ça nous fait toujours plaisir et ça permet à encore plus de gens de nous découvrir. À bientôt.